Vous connaissez sûrement ce chant qui était très populaire à l'époque et qui disait « Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. » Quelle promesse ! Ça fait même un beau slogan publicitaire. Numéro 130, on me dit. Un slogan. Comme si on voulait vendre notre foi. Mais avec un tel slogan, on pourrait peut-être nous attaquer de publicité mensongère. Alors, c'est pas complètement faux. D'une certaine manière, c'est vrai. Quand Jésus reviendra rétablir son règne, dans ce que l'Apocalypse appelle la Nouvelle Jérusalem, tout ira bien, en effet. Mais d'une part, ça ne concerne pas tout le monde, mais ceux qui entreront dans ce règne-là. Et d'autre part, ce n'est pas encore vrai pour notre vie ici-bas sur terre. Jésus ne nous a jamais dit qu'il allait nous donner une vie parfaite, sans épreuve, tout de suite sur cette vie que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, si on vient à Dieu en pensant que tout ira bien, on risque d'être déçu. Et parfois, nous autres chrétiens, on peut avoir tendance à parler de notre foi autour de nous comme un produit qu'on veut vendre. Mais tu verras, avec Jésus, tout ira bien. Il faut se méfier des caricatures qu'on peut faire. Alors oui, il y a beaucoup de bienfaits quand on rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Et je ne veux surtout pas nier ni minimiser les bienfaits de la vie chrétienne. Simplement, disons-nous bien que ce que nous pouvons vivre comme bienfait aujourd'hui, ce n'est qu'un avant-goût de la réelle perfection que nous irons dans l'éternité. Alors, le texte qu'on va voir aujourd'hui n'est pas très vendeur. On n'est pas dans le « Avec Jésus, tout ira bien ». D'ailleurs, j'aurais peut-être pas choisi ce texte si ce n'était pas dans la série de prédications que nous avons décidé de faire avec les anciens. Actuellement, nous suivons une série sur la deuxième lettre de Paul à Timothée, donc un livre dans la Bible, et que nous avons intitulé « Fidèle à Dieu en toutes circonstances ». Et un des intérêts de faire des séries de prédications sur un livre biblique ou une portion entière des Écritures, c'est que ça nous oblige à passer par des textes qu'on n'aurait peut-être pas pensé apprendre, qu'on n'aurait peut-être pas choisi. Et à l'église d'Ozoir, avec les anciens, on a cette ambition de vouloir prêcher, comme on dit, tout le conseil de Dieu. On ne veut pas juste faire une sélection des passages ou des versets qui nous plaisent bien, mais on veut être le plus fidèle possible à ce que la parole de Dieu dit, et on veut se laisser enseigner par elle. Si on veut être solide dans la foi, il faut bien qu'on s'imprègne de toute la parole de Dieu. Si on se contente de manger du fast-food, notre corps ne va pas trop nous aimer. On a aussi besoin d'aliments plus variés, peut-être plus difficiles à mâcher, et il faut bien les digérer pour bien profiter de tous les nutriments. Et bien c'est pareil avec la parole de Dieu. Alors, comme on a pu l'entendre dans les trois premières prédications de cette série, dans la lettre de Paul, la deuxième lettre de Paul à Timothée, Paul était en prison. C'était une des dernières lettres qu'il a écrites et il sentait peut-être sa fin arriver. On peut se dire, c'est pas très joyeux comme contexte. Et dans cette lettre, il laisse en quelque sorte comme ses dernières consignes à Timothée, qui était un jeune pasteur d'une église à Éphèse, dans l'actuelle Turquie. Et c'est que la situation, bon, elle n'était pas facile pour Paul vu qu'il était en prison, mais de manière un peu plus générale, elle n'était pas facile pour les chrétiens. Et donc Paul voulait encourager Timothée, et donc derrière l'église, à persévérer dans la foi, malgré les difficultés. Et aussi, il voulait les encourager à se défendre face à un autre danger. Des faux enseignants qui détournaient les chrétiens de la vérité de l'Évangile. Et donc même si les exhortations de ce texte s'adressaient à des chrétiens en particulier, dans un contexte particulier, on peut aussi prendre ces paroles pour nous. Et on verra qu'il y a des choses qui nous touchent aussi par rapport à ce que nous vivons, ce que nous connaissons autour de nous. Alors sans plus tarder, lisons ce texte. On est au chapitre 3 de la deuxième lettre de Paul à Timothée. « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leurs passions et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, au passé chargé et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux imposteurs. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelles persécutions, en effet, n'ai-je pas subies ? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Waouh ! Ce texte décrit un portrait effrayant. Des temps difficile. Et la raison de ces difficultés réside dans la méchanceté du cœur des hommes. Et on a là une liste de 19 caractéristiques plus mauvaises les unes que les autres. Rien que le nombre, 19, est impressionnant. Il y a plusieurs autres endroits dans la Bible, et notamment dans les lettres de Paul, où on a des énumérations, mais rarement autant, 19. On connaît peut-être plus, par exemple, l'énumération du fruit de l'esprit, il n'y en a que 9. Là, 19. Alors, je me suis amusé à les classer en 3 catégories. Tout d'abord, et ça apparaît en vert sur le texte, des caractéristiques qui correspondent directement à ces hommes, à leur cœur. Ils sont avides d'argent, vantards, prétentieux, incapables de se maîtriser, ennemis du bien, emportés par leur passion, enflés d'orgueil. Un beau CV, n'est-ce pas ? Ensuite, en bleu, j'ai regroupé des caractéristiques qui ont un rapport à la relation de ces hommes-là avec les autres autour d'eux. Ils sont égoïstes, sans égard pour leurs parents, ingrats, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, c'est-à-dire qu'ils disent des choses fausses sur les autres. Et on sait qu'on peut vraiment faire du mal en calomniant. Ils sont cruels, prêts à toutes les trahisons. Le portrait de l'ami idéal, quoi. Et la troisième catégorie, en gris, alors ça se voit peut-être pas très bien, mais c'est des caractéristiques qui touchent à leur manière, à leur comportement vis-à-vis de Dieu. Ils sont blasphémateurs, c'est-à-dire qu'ils injurient Dieu, ils lui manquent de respect. Ils sont dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Ils aiment le plaisir plutôt que Dieu. Ils sont attachés aux pratiques de la religion, mais en réalité, ils ne veulent rien savoir de ce qui en fait la force. Alors, peut-être que autour de nous, dans notre société, les gens seraient choqués par les deux premières catégories. Des gens qui ont un cœur mauvais comme ça, ou qui sont mauvais envers les autres, ça peut choquer autour de nous. Et peut-être que les gens sont moins choqués par cette troisième catégorie, des gens qui ont un mauvais comportement vis-à-vis de Dieu. Quand on est dans une société sécularisée où on rejette Dieu, ça a l'air normal. Et pourtant, quand on y réfléchit bien, c'est quand même bien ça qui est le plus grave. Et le tout est lié, en fait. Alors, ce qui peut être troublant pour nous, c'est que ces hommes mauvais, ils ont quand même un vernis, une apparence de religion, de piété. Et donc, on peut se dire, c'est peut-être quand même des gens respectables. Mais dès qu'on gratte et qu'on voit ce qu'il y a derrière la façade, on voit qu'en fait, ce sont des gens qui sont ouvertement contre Dieu. Alors, j'aimerais revenir maintenant sur une petite précision sur le début de ce passage. Paul mentionne la période finale de l'histoire, ou dans d'autres traductions, on a les derniers jours. Spontanément, on pourrait croire qu'il s'agit d'une période dans le futur, voire lointaine. Mais pour Paul et les premiers chrétiens, ils vivaient déjà dans cette période finale de l'histoire. Paul décrivait des comportements auxquels ils devaient s'attendre dans leur réalité déjà. Et probablement que Paul et les chrétiens des premiers siècles s'attendaient à ce que Christ revienne très rapidement. Ils seraient peut-être surpris qu'on soit là encore 2000 ans plus tard pour en parler. Et quand on lit cette liste des 19 vices, ces caractéristiques, on pourrait reconnaître pas mal de choses qu'on voit autour de nous, dans notre société, peut-être dans notre cœur. Et en fait, on est aussi déjà encore dans cette période finale de l'histoire. C'est cette période qui sépare le retour de Jésus au ciel, à l'ascension, et quand il va revenir sur terre. Et on peut s'attendre effectivement à une intensification de cette méchanceté, de ce mal, jusqu'à son retour. Le but de Paul ici, quand il parle des temps de la fin, ce n'est pas de nous donner une énigme pour essayer de deviner quand est-ce qu'il va revenir. Ce n'est pas le sujet. Mais c'est juste qu'on doit comprendre que c'est bien une réalité dans laquelle on vit déjà aujourd'hui et on doit y faire face, y s'y préparer. Alors, je me suis dit, mais quel est l'intérêt d'avoir fait toute cette liste de tous ces vices ? Et je me suis dit qu'on aurait pu s'attendre à ce que Paul ensuite lance une chasse aux sorcières ou dénonce des gens et engage les gens à les combattre. C'est peut-être les réflexes qu'on aurait naturellement, que ce soit en politique ou sur les réseaux sociaux, on va vouloir cibler des gens ou des groupes et aller les combattre. Mais en fait, même pas. Pas du tout. La seule consigne que Paul donne ici à Timothée et donc à l'église derrière, c'est « détourne-toi de ces gens-là ». Cet objectif de mise en garde, sache que, etc., c'est pour que les chrétiens soient prévenus. En français, on dit un homme averti en vaut deux. Ça s'applique ici. Pour qu'on puisse s'éloigner et pas se laisser influencer par ces hommes mauvais. Alors, venons-en à la suite. On a vu à l'instant une description générale de la dépravation des hommes au temps de la fin, dans lesquels nous sommes déjà. Mais Paul vise ensuite une catégorie plus particulière d'hommes qui sèment le trouble parmi la communauté chrétienne. Des enseignants de mensonges. On va voir maintenant quelle est la clé de leur succès, mais aussi pourquoi ils sont condamnés à l'échec. Alors, vous avez peut-être déjà tous vu des documentaires animaliers, comme sur cette image, avec notamment des prédateurs qui chassent des troupeaux d'antilopes, de zèbres ou d'autres herbivores. Et je me suis dit, mais quelle est leur stratégie à ces félins, à ces prédateurs ? Souvent, c'est d'être à l'affût, d'observer parmi le troupeau quels sont les éléments les plus faibles, les plus fragiles, les blessés, les jeunes, les plus âgés. Ensuite, attendre qu'ils se détachent un peu du groupe, les isoler, et après, c'est une proie facile. Et ici, on a l'impression que c'est la même stratégie qu'emploient ces faux enseignants. On nous dit qu'ils s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables au passé chargé et entraînées par toutes sortes de désirs. On nous décrit des personnes qui étaient plus faibles dans la société. Alors on sait que déjà, les femmes avaient moins accès à l'éducation à l'époque, notamment l'éducation religieuse. Mais là, on ne parle pas de toutes les femmes, mais juste de celles qui étaient fragiles, qui pouvaient être influencées plus facilement par ces gens-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui ? Le contexte a bien évolué depuis l'époque, et on ne pourrait pas dire que de telles mises en garde concernent moins les hommes que les femmes. Mais alors, qui sont parmi nous les personnes qui sont les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus enclines à être influencées par de faux enseignants? Et je dirais que ce sont les personnes qui connaissent moins bien la parole de Dieu, qui sont moins fermement ancrées dans ce que la Bible dit vraiment. Alors, il paraît que quand on doit former des gens dans les banques ou dans les magasins à reconnaître des faux billets, il paraît que l'essentiel de la formation ne consiste pas à étudier les faux billets, mais d'apprendre à bien connaître les vrais billets. C'est ça qui marche. Et on peut faire un parallèle avec ça en disant que pour nous, si on veut reconnaître les faux enseignements, ça ne sert à rien qu'on passe notre temps à étudier en détail chacun des faux enseignements qui peut exister, parce que ce serait infini. Mais il faut bien qu'on étudie le vrai, la parole de Dieu. Il est important, indispensable que nous nous nourrissions de cette parole pour nous familiariser avec la pensée de Dieu. Et c'est ainsi, naturellement, qu'on détectera les erreurs, les mensonges. Alors, qui sont ces faux enseignants qui s'introduisent dans les familles ? Et est-ce qu'il y a encore des faux enseignants comme ça qui s'introduisent dans les familles ? Alors, probablement que ça vous arrive pas souvent d'avoir des gens qui toquent à la porte pour vous apporter un faux enseignement. Alors on a peut-être encore les témoins de Jéhovah qui font ça, mais aujourd'hui, ça reste quand même d'actualité d'avoir des faux enseignants qui entrent dans nos maisons pour nous perturber. Avec, j'allais dire, les merveilles technologiques d'Internet, c'est super facile d'entrer chez les gens. Et avec Internet, il y a du bon, mais il y a du mauvais aussi. Et donc, on va pas tout rejeter ensemble. Nous-mêmes, on a notre site de l'Église sur Internet, mais méfions-nous, parce qu'on peut avoir accès à toutes sortes d'enseignements, dont des mauvais, dont des faux. D'où l'importance de bien connaître le vrai pour pouvoir détecter le mensonge. Et parmi les faux enseignements les plus répandus, on en a qui vont nier ou minimiser l'existence de Dieu, sa grandeur ou ses caractéristiques. Parmi les autres enseignements facilement répandus, on va trouver des gens qui vont mettre l'accent uniquement sur une réussite matérielle, ici-bas. Dans notre texte, on nous parle de Jannès et Jambrès. On ne les connaît peut-être pas. En fait, la tradition juive dit que c'était le nom de deux magiciens qui était auprès du Pharaon, à l'époque où Moïse allait vers le Pharaon pour demander de laisser sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et donc il y avait une sorte de battle de signes, de miracles à ce moment-là. Donc Moïse et Aaron avaient fait des signes. Et ensuite, ces magiciens-là disaient « Nous aussi, on peut faire ça. Nous aussi, on transforme un bâton en serpent, etc. » Mais très vite, on a vu qu'il y avait une différence. c'est que la puissance de Dieu n'avait rien à voir avec celle des magiciens de l'époque. Et donc ces Jannès et Jambrès étaient des magiciens, ils impressionnaient. Ils arrivaient à faire des choses que tout le monde ne peut pas faire. Mais c'était des trompeurs, des imposteurs, comme dit notre texte. Des Jannès et des Jambrès, il peut y en avoir encore autour de nous aujourd'hui. Des gens qui impressionnent par leur qualité, par leurs dons, peut-être qui font des gestes incroyables, peut-être même parfois des guérisons. Il y a des guérisseurs de toutes sortes. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui est derrière eux. Faisons attention. Et regardons vraiment à ce qui est essentiel, à la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vous proposer quatre domaines de l'enseignement qui sont vraiment essentiels dans la Bible, sur lesquels il faut vraiment qu'on soit super solide, super ancré pour ne pas être ébranlé. En gros, c'est notre remède pour tenir face aux enseignements de mensonge. Le premier domaine concerne tout simplement qui est Dieu, son existence, mais aussi ses attributs, sa grandeur, sa toute-puissance, sa justice, sa sainteté, sa bienveillance, son amour, et j'en passe. Si un enseignant commence à remettre en doute ou à déformer l'une de ces choses-là, et d'avoir une alarme qui se met dans notre tête, ça, c'est un enseignement de mensonge. Deuxième chose super importante, c'est ce que dit la Bible de notre état de pécheur. On est rebelle contre Dieu, tous autant que nous sommes. Il n'y a pas de place pour le mythe du bon sauvage. Ou du bon pas sauvage aujourd'hui. Non, il faut le reconnaître. On est fondamentalement mauvais. Depuis la chute, dans la Genèse, l'homme est mauvais. Il est irrécupérable, par lui-même en tout cas. Le seul qui ne peut nous récupérer, ça va être notre point suivant, c'est Jésus-Christ. Là aussi, il faut qu'on soit calé au point sur qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas juste un bon enseignant qui a influencé beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui encore. Mais Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même incarné dans un homme. Et non seulement on a besoin de savoir qui il était, mais ce qu'il a fait, parce que c'était déterminant. Jésus-Christ, tout parfait qu'il était et qu'il est resté, a subi une peine de mort. Elle était injuste parce que lui ne la méritait pas. Mais il l'a subi à notre place. Il est mort à la croix, ce qui était non seulement une horrible souffrance, mais aussi humiliant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a vaincu la mort 3 jours plus tard. Et ça, c'est au cœur de l'évangile aussi. Si quelqu'un commence à nier ou à minimiser ou à déformer cela, là aussi, l'alarme se met dans notre tête. Quatrième et dernier point important sur lequel je veux attirer notre attention, où il faut qu'on soit vigilant, c'est l'importance de la vie éternelle. Le message de l'évangile ne s'arrête pas à notre vie sur terre. Il inclut la résurrection des chrétiens pour entrer dans cette vie éternelle. Une vie qui, là, sera vraiment parfaite, non entachée par le mal et la souffrance. Et si on entend un enseignement aujourd'hui qui ne parle pas trop de cette vie après la mort et qui réduit tout à notre vie sur terre, là aussi, ça doit nous alarmer. Parce que parfois, la frontière entre un message chrétien biblique et un message de développement personnel peut être assez flou. Et faisons la distinction entre justement le développement personnel et le véritable évangile. Certes, notre vie a son importance, mais ce qui est encore plus important, c'est l'éternité qui est devant nous. Alors, face à tous les mensonges des faux enseignants, on pourrait s'inquiéter. Parce que c'est grave, hein, les gens qui sont détournés de la vérité, les conséquences sont terribles. Mais notre texte nous donne quand même une raison d'espérer. Le mensonge, ce n'est pas un fondement solide. Et j'apprécie que Nathalie ait parlé beaucoup du rocher et des fondations ce matin, parce que c'est ça. le mensonge, c'est comme du sable. Et donc, si on construit une maison sur du sable, tôt ou tard, ça va s'effondrer par lui-même. Et du coup, j'ai compris pourquoi Paul n'avait même pas besoin de dire « combattez ces faux enseignants comme ceci, comme cela ». En fait, ils vont s'effondrer par eux-mêmes, parce que leurs fondations ne sont pas solides. Et c'est pour ça qu'on peut lire au verset 9 que le succès de ces gens sera de courte durée. Leur folie éclatera aux yeux de tous. Ça va se dégonfler tout seul. Vu que leur intelligence est faussée et qu'ils se sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. C'est encourageant de dire, ça dépend pas de ma force à réussir à détruire, à démontrer, à démonter. Non, ça va s'écrouler tout seul comme un château de cartes. C'est juste que d'ici là, c'est désagréable et ça peut être frustrant de voir de faux enseignements prospérer. J'arrive à la troisième partie. À l'inverse de ces enseignants de mensonges, l'apôtre Paul donne un modèle complètement différent. Ce modèle de vie chrétienne, et c'est le modèle de sa propre vie, il est marqué par un enseignement, une conduite, ou on pourrait dire une discipline de vie, des projets, la foi en Jésus-Christ, évidemment, la patience, l'amour. Donc Paul manifestait toutes ces choses-là. Ça tranche avec nos 19 caractéristiques du début. Mais il y a aussi une dimension importante de la vie chrétienne, c'est l'endurance dans les persécutions et les souffrances. Et oui, c'est la partie moins vendeuse de la vie chrétienne. Et Paul a été particulièrement bien servi en termes de persécution et de souffrance. Dans le texte qu'il écrivait alors qu'il était d'ailleurs en prison, il évoque des sévices qu'il a subis, notamment dans 3 villes, mais ailleurs dans les Écritures, notamment dans sa première lettre aux Corinthiens, il fait une liste un peu plus longue, avec une sorte de florilège des pires persécutions qu'il a subies. Et quand on voit ça, on dit « Waouh, j'aimerais pas être l'apôtre Paul. » Heureusement que je ne le suis pas. Mes parents sont contentés de me donner son prénom, ça me suffit. Ça ne rigolait pas. Et quand on lit ce texte, ce passage, ce qui peut nous impressionner, c'est ces derniers versets. C'est que tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. On aimerait bien zapper ce verset. Et malheureusement, c'est une réalité. Alors peut-être qu'on arrive à peu près à se mettre des œillères pour ne pas le voir, parce que la persécution, elle n'est peut-être pas la plus flagrante dans notre pays aujourd'hui, même si elle est bien là. Il y a d'autres pays où c'est tellement flagrant qu'on ne peut pas passer à côté. Les chrétiens en sont bien conscients. Et vous connaissez probablement l'ONG Portes Ouvertes qui fait un index de la persécution des chrétiens dans le monde. Et on voit tous les ans comment la situation se dégrade d'année en année dans plus en plus de pays. Mais la persécution, c'est un lot normal des chrétiens. Alors pourquoi on dit ça? C'est pas juste pour être rabat-joie. C'est pour ne pas être surpris quand elle arrive, quand elle est là. On n'est pas perturbé. On sait que ça fait partie de la vie chrétienne. Et si on n'est pas du tout persécuté, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est moi qui cherche à éviter absolument la persécution? Est-ce que je cache ma foi pour pas trop qu'on m'embête? Et j'aimerais vous témoigner ce que j'ai vécu quand j'avais 14 ans. Ça commence à faire il y a quelques années. Cette année-là, j'avais fait une expérience déterminante dans mon parcours avec Dieu. J'en parle parfois comme étant ma conversion, même si en vrai, il y a eu plusieurs étapes dans mon cheminement spirituel. C'était lors d'un grand rassemblement national avec les flambeaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement de scoutisme. Je vois Paul qui sourit parce qu'il était là aussi à ce même événement que moi. Et lors d'une soirée, j'avais été complètement bouleversé par le discours d'un évangéliste qui était là. Je n'ai pas le temps de vous raconter les détails, même si ce serait intéressant, mais ce que je veux retenir aujourd'hui, c'est ce qui a découlé de ce qui s'est passé ce jour-là. Pour moi, c'était une expérience de véritable capitulation. C'est là que j'ai décidé de laisser Jésus prendre véritablement le contrôle de toute ma vie et de ne plus garder un jardin secret où moi je pouvais continuer à prendre mes décisions. Je dis « Ok Seigneur, c'est toi le chef de ma vie maintenant. » Quel soulagement, quelle libération j'avais vécu à ce moment-là. Et alors, si je vous raconte ça, c'est que juste après cet été-là, j'arrivais en troisième et dans ma classe, l'ambiance était beaucoup dégradée parce qu'il y avait eu des redoublants et ce n'étaient pas les meilleurs éléments. Et cette nouvelle ambiance, qui était la mienne quotidiennement ensuite, c'était des moqueries, des brimades. Aujourd'hui, on pourrait même parler d'harcèlement moral. Et c'était la première fois où on s'en prenait ouvertement à moi et à ma foi en particulier. Et ce qui était nouveau, non seulement c'était la première fois, mais c'est aussi que j'étais surpris de voir que j'osais assumer ma foi, j'osais assumer ces décisions que j'avais prises fermement pendant cet été qui avait précédé. Et non seulement j'osais assumer, mais même j'étais fier de subir ces pressions. Je me disais, mais c'était une forme de persécution à petite échelle. Je dis, c'est comme si j'étais reconnu digne de subir les pressions comme mon maître. C'était comme si, c'est comme ça que je le comprenais, le diable avait compris qu'il m'avait perdu et qu'il essayait désespérément de se venger ou de me ramener à lui. Et peut-être que si vous vous êtes converti récemment ou baptisé récemment, vous savez que le diable essaie de nous embêter, en particulier à cette période-là. Mais j'avais compris qu'à ce moment-là, je n'avais plus les fesses entre deux chaises. Le collège la semaine, l'église le week-end, ma vie était claire. J'avais pris position. Mes amis, soyons conscients que la persécution n'est pas quelque chose de surprenant quand on est chrétien. C'est même plutôt la règle générale, d'après ce qu'on peut lire dans notre texte. Mais on peut lire qu'il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que Dieu délivre ses enfants. Paul dit que dans chacune de ses persécutions, le Seigneur l'en a délivré. Alors cette délivrance, ce n'est pas seulement qu'il est encore en vie et c'est pour ça qu'il peut en parler et l'écrire. La délivrance, c'est aussi Dieu qui lui a donné la force de tenir fermement jusqu'au bout, de ne pas craquer, de ne pas lâcher la foi. Et la récompense de cette persévérance, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il écrit à la fin de cette deuxième lettre à Timothée, et on va lire les versets 17 et 18. « C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié, afin que, par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. » Donc Paul avait pu aller jusqu'au bout dans son ministère. « Et c'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. » Nathalie a parlé des Romains tout à l'heure, mais les Romains étaient aussi connus pour lâcher les chrétiens en pâture aux lions dans les arènes. C'était terrible. Donc Paul avait pu échapper à ça, en tout cas au moment où il a écrit. « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Et ça, c'est la véritable délivrance ultime. Ça, c'est l'espérance de chaque chrétien et qui peut vraiment nous aider à tenir bon, tenir ferme face à la persécution, parce qu'on a ça en vue. On va conclure, les amis. Le monde dans lequel nous vivons est mauvais. Les hommes qui nous entourent sont mauvais et le mensonge est partout. La Bible ne nous le cache pas. Hein. Elle ne nous décrit pas juste un monde de bisounours. Elle est bien ancrée dans la réalité. Elle ne nous vend pas du rêve, en tout cas pas une vie meilleure tout de suite, ici-bas. Elle en est d'autant plus crédible et pertinente pour nous aujourd'hui. Ce qu'on a pu voir, c'est que la seule manière de lutter contre le mal et le mensonge, c'est de fuir les hommes mauvais et d'être solidement ancré dans la parole de Dieu. La vie chrétienne n'est pas facile. Elle est certes meilleure dans le sens où elle répond au projet de Dieu et qu'on a des bienfaits dès aujourd'hui, mais surtout, elle débouchera sur un bonheur parfait pour l'éternité, dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, elle nous expose à des souffrances. Donc, ne soyons pas surpris, mais sachons qu'il y a de l'espoir. Dieu délivre ceux qui veulent rester avec lui. C'est lui qui donne la force et la persévérance. Si on essaie de se projeter dans des situations de persécution extrême, on peut tout de suite dire « mais moi je suis incapable de résister à ça ». C'est Dieu qui donne cette force-là. Et c'est lui qui nous permettra de mener la course jusqu'au bout et d'entrer dans son repos céleste. Je vous invite à vous lever et on va terminer dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es tout puissant et parce que tu es bon. Merci parce que tu n'es pas en décalage par rapport à ce que nous vivons, tu le sais très bien. Et oui, Jésus, tu as vécu cette condition humaine et tu la connais aussi bien que nous, même peut-être plus durement que nous. Et merci parce que tu nous as donné une solution de sortie. Tu ne veux pas que nous ignorions que les difficultés sont bien là, mais tu nous donnes cet espoir qui nous fait vivre, qui nous fait tenir. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin, que tu nous aides à être solidement ancrés dans ta parole. Cette parole qui nous permet de ne pas tomber à gauche ou à droite. Seigneur, on veut te prier pour que tu fortifies ton Église en général, dans le monde entier, pour que les faux enseignements ne prospèrent pas et tu nous l'as dit, ils vont s'effondrer d'eux-mêmes. Mais que tu aides les chrétiens à tenir ferme, d'être accrochés à l'essentiel, à l'évangile, cette bonne nouvelle. Seigneur, je veux te prier pour chacun de mes frères et sœurs ici ce matin, que tu les fortifies. Je veux te prier aussi pour ceux qui sont parmi nous et qui ne te connaissent peut-être pas encore ou qui ne savent pas trop où ils en sont par rapport à toi. Seigneur, on veut te prier pour qu'ils puissent ressentir ton appel à capituler devant toi, à te laisser diriger leur vie et à ressentir ce bonheur, cette paix, en étant confiant que, malgré les épreuves que de telles décisions peuvent entraîner, ils pourront toujours compter sur toi. Et que, pour l'éternité, ils pourront aussi vivre cette réalité que, avec mon Dieu, tout ira bien. Amen.